France Culture.
Il est presque 18h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction présenté par Faouzi Trita. Bonsoir Faouzi.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Michelin rend l'argent du CICE à l'État, c'est inédit comme démarche. L'entreprise française avait bénéficié de plusieurs millions d'euros pour acheter 6 machines au bénéfice de l'usine de La Roche-sur-Yon, une usine qui a fermé en 2020. Cette action, c'est pour éteindre les polémiques, nous dira Jeanne Serrin. Les infirmiers et les infirmières vont avoir plus de pouvoir dans le domaine médical. Notre système de santé très centré sur le médecin s'appuiera donc davantage sur les compétences des infirmiers et infirmières. Un décret vient de paraître dans ce sens. Volodymyr Zelensky va défendre une version remaniée du plan de paix américain avec la Russie. Ce sera dimanche en Floride, dans le fief de Donald Trump. Les points sensibles seront abordés, selon le président ukrainien, notamment la question du Donbass. En Syrie, un groupuscule extrémiste sunnite a revendiqué l'explosion dans un quartier alouite de Homs d'une mosquée. Un peu plus d'un an après l'arrivée au pouvoir d'Ahmed El-Sharé et le départ de Bachar el-Assad, cette nouvelle attaque sanglante témoigne une nouvelle fois des difficultés pour le président par intérim syrien d'unifier le pays. Dans un contexte où la France peine à trouver un budget pour 2026 et où les finances publiques sont dans le rouge, l'entreprise Michelin, l'un des fleurons industriels français, a décidé de rendre de l'argent à l'État français, 4 300 000 euros. Ce n'est pas un don, ce n'est pas pour contribuer à l'effort national. Ce sont les millions d'euros perçus au titre du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, mesure phare du président François Hollande pour relancer l'activité. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors cet argent avait servi à l'achat de 6 machines qui auraient dû bénéficier à l'usine de La Roche-sur-Yon, mais le site a fermé ses portes en 2020. Michelin a donc décidé de reverser cette somme à l'État pour éteindre toutes les polémiques.
Oui, polémiques qui enflent depuis 2017, mais c'est cet été que l'affaire obtient un retentissement plus important avec la publication d'un rapport, celui de la commission d'enquête sénatoriale sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. 26 recommandations en tout, et l'une d'entre elles vise spécifiquement Michelin. Les sénateurs demandent à l'entreprise de rembourser cette part du CICE perçue pour l'achat de ces 6 machines jamais utilisées en France et transférées sur d'autres sites en Europe. S'ensuit un épisode de complément d'enquête avec une séquence sur le cas Michelin et dont l'écho sera important. Auditionné par la commission en mars, le PDG de l'entreprise s'était dit favorable au remboursement de cette somme, mais le timing choisi interroge Romain Bastiac, délégué syndical centrale de la CGT Michelin.
Il n'y a jamais de cadeau avec Michelin aujourd'hui. Son image a été un peu écornée avec les PSE de Vannes et Cholet, avec 1254 salariés qui ont vu leur usine fermée. Donc aujourd'hui, il fallait qu'ils se redonnent une bonne image. Comme par hasard, il le fait juste avant Noël. C'est quand même gros quand même, mais bon.
C'est tout de même une victoire qui fera date, se félicite le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale, le sénateur communiste Fabien Gay.
C'est une grande victoire, puisque c'est la première fois qu'un groupe rembourse l'argent de manière éthique, sans décision judiciaire, et donc ça montre qu'il faut changer les règles sur l'utilisation des aides publiques, d'abord les rendre transparentes, et puis surtout les conditionner. Ce qu'on délocalise, il faut le remboursement.
C'est d'ailleurs, Jeanne Serrin, l'une des recommandations du rapport de la Chambre haute, mieux contrôler ces aides publiques versées aux entreprises.
Oui, en 2023, les entreprises françaises ont reçu 211 milliards d'euros d'aides publiques, selon la commission d'enquête sénatoriale. Mais la grande majorité d'entre elles sont versées sans contrepartie. Les sénateurs préconisent donc d'imposer le remboursement total d'une aide de l'État si l'entreprise procède à une délocalisation d'un site ou d'une activité dans les 2 ans. Une recommandation reprise dans une proposition de loi sénatoriale qui est en ce moment en cours de rédaction.
Les explications signées Jeanne Serrin. Aux yeux de tous, les infirmiers et les infirmières sont des soignants dévoués qui exercent une profession admirable et souvent mal valorisée. Eux-mêmes considèrent que leur travail n'est pas toujours reconnu. Un décret vient de préciser aujourd'hui les modalités d'application de la loi sur la profession d'infirmier et d'infirmière qui a été votée cet été. Bonsoir Héloïse Weiss.
Bonsoir.
Alors ce décret en fait élargit leur domaine de compétences pour leur donner une place beaucoup plus centrale dans notre système de soins.
Dans un système de soins historiquement centré sur la figure du médecin, c'est une petite révolution. Les infirmières et les infirmiers réalisaient des soins à partir d'une liste d'actes vieilles de plus de 20 ans et seulement sur prescription. Anne-Gaëlle Kramer, infirmière libérale dans la région dijonnaise, militait depuis 2 ans pour faire évoluer la loi. Aujourd'hui, avec ce décret, elle exulte.
On avait des responsabilités, mais on n'avait pas d'autonomie. Une petite plaie ou retirer des points de suture, sans prescription médicale, on n'a pas le droit de le faire. Donc il fallait renvoyer les gens chez le médecin pour avoir une prescription. Et après, les patients revenaient et on faisait les soins. Là, on va pouvoir évaluer des petites plaies ou des petites brûlures. On va pouvoir aujourd'hui les soigner sans passer par un médecin.
Non seulement le décret reconnaît juridiquement le diagnostic de l'infirmier, mais il autorise aussi le praticien a mené des consultations de santé, a réalisé un bilan clinique avant d'orienter son patient vers un médecin en cas de nécessité. C'est donc une nouvelle porte d'entrée dans le parcours du soin et un gain de temps, analyse Grégory Combe, juriste et expert en politique de santé pour l'Institut Sapiens.
Les infirmiers, 640 000 professionnels répartis de façon égalitaire sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de désert infirmier. Il y a des endroits où il y en a un peu moins, mais en vrai, il n'y a pas de désert infirmier. C'est pour ça que c'était attendu. C'est-à-dire, c'est une nouvelle porte d'entrée et on vient corriger, pardonnez-moi de le dire, une erreur qui a été faite il y a 20 ans de prendre un professionnel ultra qualifié qui est le médecin traitant et de dire c'est l'unique porte d'entrée. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres qualifications, plein d'autres professionnels qualifiés dans notre système de santé pour accueillir le patient en direct.
Réclamé de longue date, le décret donne aussi le droit de prescrire des médicaments et des examens complémentaires. La liste sera publiée dans un prochain arrêté.
Héloïse Weiss, merci. C'est une mesure qui était présentée comme un atout en vue d'un réarmement démographique pour faire face à la baisse de la natalité. Le nouveau congé de naissance voulu par Emmanuel Macron, c'est un congé supplémentaire accordé aux deux parents en plus des congés maternité et paternité qui existent déjà. Il devait entrer en vigueur au 1er janvier. Finalement, ça ne sera qu'à partir du 1er juillet pour des raisons administratives. Mais avant cette date, Boris Allier, aucun parent ne sera oublié.
Si la naissance ou l'adoption a lieu entre le 1er janvier et le 31 mai, les parents auront droit à un délai exceptionnel pour prendre ce congé de 1 ou 2 mois à partir du 1er juillet et jusqu'à la fin de l'année 2026. Les autres dont l'enfant naît ou est adopté à partir du 1er juillet auront 9 mois pour en bénéficier. Pour le gouvernement, l'application de ce nouveau dispositif dès le 1er janvier 2026 n'était pas possible. Les employeurs devant mettre à jour leur logiciel de gestion RH et les caisses d'assurance maladie devant adapter leur système d'indemnisation. Cela reste malgré tout une entrée en vigueur accélérée par rapport au calendrier initial qui prévoyait une mise en place au 1er juillet 2027. D'ailleurs, le ministère de la Santé précise que les débuts pourraient être marqués par des délais d'indemnisation rallongés et une lourdeur administrative.
On les a surnommés les irréductibles, ces agriculteurs de la coordination rurale qui ont passé Noël autour des barrages routiers, dans le froid, emmitouflés dans leurs manteaux, à construire des camps de fortune dans le sud-ouest pour dénoncer la gestion gouvernementale de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse. Eh bien, aujourd'hui, la coordination rurale annonce avoir levé plusieurs barrages après 2 semaines de mobilisation. Parmi ces barrages, 2 très symboliques, le camp de Sestas, au sud de Bordeaux, qui a été démonté donc, tout comme celui de l'A64 près de Bayonne. Le barrage près d'un péage de Pau a aussi été démantelé. La section girondine du 2e syndicat agricole a déploré le silence et le mépris de l'exécutif. Pour le secrétaire général de la coordination rurale, François Valrette, il était temps de partir pour mieux revenir.
Les agriculteurs, ils ont aussi besoin de faire une pause. En ce moment, les vaches, elles sont en train de mettre bas, les veaux sont en train de naître, ça nécessite beaucoup de travail. Donc il y a aussi un peu besoin de se reposer, de reprendre des forces. Mais début janvier, la mobilisation, elle reprendra dans un certain nombre de départements parce que l'inquiétude, elle est vraiment extrêmement grande. On sait que l'agriculture est dans une mauvaise passe, qu'il y a des réformes structurelles à mettre en œuvre. Et si on veut qu'elle démarre, il faut engager un rapport de force pour que ces discussions continuent. Sur la dermatose, au début, il y avait un refus catégorique de revoir ce protocole. Je pense que le ministère, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou le Premier ministre, ont compris effectivement que ce protocole peut être nécessité d'être revu au moins remettre un peu de science dans le débat pourrait peut-être permettre de le faire évoluer. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, on peut reconnaître que le ministère met les moyens pour que la vaccination se fasse très vite. J'espère que cette généralisation dans ces 10 départements, elle va permettre d'éviter qu'on détecte sans arrêt des nouveaux foyers, parce que c'est quand même un peu inquiétant, moi, je trouve. Et j'espère que cette généralisation va permettre de faire disparaître la maladie. Et puis surtout, de faire en sorte qu'elle ne réapparaisse pas au mois d'avril lorsque les mouches et les temps, qui sont les principaux vecteurs, vont de nouveau se développer. Parce que là, ce serait vraiment la catastrophe.
Les derniers blocages agricoles encore en place sur des autoroutes se concentrent désormais en Occitanie, notamment à Carbonne, c'est au sud de Toulouse. La nuit, le thermomètre descend bien en dessous de zéro. Des températures aussi froides, c'est une première depuis 15 ans en cette période et ça va encore durer plusieurs jours. Au moins 23 préfectures ont activé le plan grand froid pour mettre à l'abri les personnes vulnérables qui dorment dehors, des hommes, des femmes, des enfants. En Normandie, par exemple, la préfecture du Calvados a ouvert 2 centres d'hébergement d'urgence dans 2 gymnases à Caen. Ils sont gérés par la Croix-Rouge. Sarah Saltiel-Rago, d'ici Normandie, ex-France Bleu, vous vous êtes rendu dans l'un de ces gymnases.
Les personnes arrivent à partir de 17h, on peut leur offrir un petit goûter, une boisson chaude.
Mélanie Ruel de la Croix-Rouge Calvados est mobilisée avec une quinzaine de bénévoles depuis le réveillon sur ce gymnase.
On a des repas fournis, des repas faits maison.
Et à côté, c'est tout un dortoir en fait qui a été installé.
Oui, tout à fait. Donc on a ce capacitaire à la Croix-Rouge d'avoir des remorques armées avec des lits picots, des duvets, des tonnelles. Donc il y a 50 personnes qui peuvent venir et qui peuvent être hébergées.
Dès l'ouverture, les premières personnes arrivent. Abdou, 37 ans, vient se mettre au chaud.
J'étais hébergé chez quelqu'un, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Et merci beaucoup pour la Croix-Rouge. C'est un bon accueil, vraiment. C'est quelque chose qu'on a besoin en ce moment. On ne peut pas rester même pas 30 minutes d'heure, quoi. Ça fait très, très froid.
Il reste juste 2 nuits. Après, il ira chez une connaissance. Shana, la vingtaine, elle est déjà venue la veille avec son compagnon. Ils sont à la rue tous les deux.
Ça peut être compliqué. Des fois, on est obligé de faire la manche pour avoir à manger. Ou des fois, on va avoir la Croix-Rouge mobile.
Pour dormir, vous faites comment ?
On appelle le 115 tous les jours. Quand il n'y a pas de place, on essaie de trouver un endroit assez chaud, avec des couvertures.
Là, au moins, vous avez un lit pour quelques jours.
Oui, c'est ça.
Et le gymnase reste hébergement d'urgence jusqu'à lundi matin. Ensuite, les températures devraient remonter.
Il est 18h11 et vous écoutez le journal de France Culture. Volodymyr Zelensky et Donald Trump seront ensemble dimanche en Floride à Mar-a-Lago, fief du président américain, pour tenter de trouver une issue au conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis bientôt 4 ans. Et cela passe par des discussions autour du plan de paix américain. Kiev va défendre une version remaniée. Un plan, Claude Guibal, qui introduit une idée nouvelle, une zone démilitarisée dans le Donbass.
Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit de verrouiller le soutien américain autour du plan de paix réécrit avec l'Ukraine après des semaines de discussions avec Washington. Un texte dévoilé il y a 2 jours, il prévoit un gel du front aux lignes actuelles. Volodymyr Zelensky veut avancer sur 2 dossiers. La centrale nucléaire de Zaporijjia, toujours sous contrôle russe, et le Donbass. Le texte introduit d'ailleurs une nouveauté majeure, l'idée d'une zone démilitarisée dans le Donbass, rebaptisée zone économique spéciale. Une zone tampon sans troupes russes ni ukrainienne. Elle serait placée sous contrôle de forces internationales pour sécuriser durablement le front et permettre une reprise économique encadrée. Une concession importante, mais cette zone ne pourrait voir le jour qu'après un véritable cessez-le-feu et avec l'aval des Ukrainiens par référendum. Cette version du plan portée par l'Ukraine écarte de fait 2 exigences de Moscou, le retrait des forces ukrainiennes du Donbass et l'engagement contraignant de ne pas rejoindre l'OTAN. 2 exigences considérées comme non négociables par Vladimir Poutine.
Et d'ores et déjà, c'est un haut responsable russe qui a accusé l'Ukraine de vouloir torpiller les négociations sur le plan américain. Au Nigeria, plus qu'une lutte contre le groupe État islamique et d'autres groupes djihadistes, c'est une question de politique intérieure pour le président Donald Trump. Des frappes américaines ont été menées sur des positions au nord du pays qui visaient ces groupes armés. Avec l'accord du gouvernement du Nigeria, ce sont des représailles, selon Washington, au massacre de chrétiens dans le nord-ouest du pays. C'est la première fois que l'armée américaine a opéré au Nigeria sous Donald Trump. Donald Trump qui pourrait bien obtenir un bénéfice politique aux États-Unis en se présentant comme le défenseur des chrétiens du Nigeria. À New York, Gwendal Lavina.
Cela fait des années que plusieurs élus républicains emploient le terme de génocide pour qualifier les exactions commises contre les chrétiens au Nigeria. Le résultat d'un long travail de lobbying auquel se prêtent aussi bien les très puissantes organisations chrétiennes évangéliques basées aux États-Unis que des groupes nigérians, souvent partisans du Biafra, une région sécessionniste chrétienne du Nigeria. Leurs représentants affirment rencontrer régulièrement des élus à Washington. Depuis 2011, à la Chambre des représentants, Bill Wiesinger fait tout pour mettre en lumière les exactions commises par les groupes islamistes contre les chrétiens. Le républicain, qui était d'ailleurs au Nigeria le week-end dernier, a milité auprès de Donald Trump pour que le pays soit à nouveau considéré comme particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse, et l'indifférence sur le sujet l'agace.
J'ai étudié avec des Nigérians qui ont des voisins, de la famille là-bas et qui savent ce qu'il s'y passe. Et pourtant, on voit, pas seulement les médias, mais des membres du Congrès qui le contestent ou en tout cas minimisent.
Depuis hier, de nombreux élus républicains et des organisations chrétiennes proches de Donald Trump le félicitent d'avoir eu le courage d'enfin agir, loin d'être anodin à 11 mois des élections de mi-mandat. Les autorités nigérianes, elles, rejettent de longue date l'existence d'un génocide visant les chrétiens et rappelle que les populations musulmanes subissent également les ravages des groupes terroristes.
Au Proche-Orient, le ministre de la Défense israélien a ordonné à l'armée de mener une opération contre le village en Cisjordanie occupé d'où venait l'assaillant. On parle de ce Palestinien qui a tué une femme et un sexagénaire dans une attaque menée en deux temps dans le nord d'Israël. Les Palestiniens de ce village vont donc recevoir une sorte de punition collective. Alice Roussard, vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Que sait-on précisément de cette attaque qui a provoqué les foudres du gouvernement israélien?
D'après les informations qui nous proviennent de la police israélienne, l'assaillant au volant de son véhicule a d'abord renversé un homme de 68 ans à Beth She'an, dans le nord d'Israël. Dans un second temps, une jeune femme de 18 ans a été poignardée. D'après le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, les deux victimes ont succombé à leurs blessures et sont décédées. Le suspect, selon l'armée israélienne, est un Palestinien de Cisjordanie occupée venu du village de Kabatia, juste au sud de Jenin, qui, je cite, se trouvait illégalement sur le territoire, infiltré il y a plusieurs jours. Le ministre israélien de la Défense n'a pas perdu de temps. Il a ordonné à l'armée d'agir avec force et immédiatement contre ce village. Si le motif de cette attaque n'est pas encore revendiqué, il faut rappeler que la semaine dernière, un adolescent de 16 ans a été abattu par l'armée israélienne dans ce même village. L'armée l'avait d'abord accusé d'être un terroriste dans un premier communiqué. Ensuite, l'avait accusé d'avoir voulu jeter une brique sur les soldats. Des vidéos de surveillance analysées par plusieurs médias, dont CNN, montraient que rien ne semblait avoir été jeté depuis la ruelle où se trouvait l'adolescent palestinien.
Le récit d'Alice Froussard, correspondante de France Culture à Jérusalem. En Syrie, en ce jour sacré pour les musulmans, jour de la prière du vendredi, une explosion a eu lieu au sein d'une mosquée située dans un secteur alaouite de la ville de Homs, au centre du pays. Bilan, 8 morts et 18 blessés. Les alaouites, minorité chiite, dont est issu l'ancien dictateur déchu Bachar al-Assad, sont régulièrement visés par des représailles depuis l'arrivée il y a un peu plus d'un an d'Ahmed El-Sharé, qui a pris le pouvoir en dirigeant une coalition de groupes rebelles islamistes sunnites. On se souvient par exemple de la mort de 1700 Syriens au mois de mars dans des massacres sur le littoral syrien où la communauté alaouite est très implantée. C'est un groupuscule extrémiste sunnite peu connu, Saraya Ansar al-Sunna, la brigade des partisans de la Sunna, qui a revendiqué l'attaque de la mosquée à Homs. Une attaque sanglante qui illustre, Valérie Krova, une nouvelle fois les difficultés à apaiser les tensions entre les communautés depuis le départ de Bachar al-Assad.
Des débris, des chaussures, des livres de prière abandonnés à la hâte. Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des tapis recouverts de fragments de métal. Les engins explosifs étaient placés à l'intérieur de la mosquée. Ils pourraient avoir été cachés dans des aspirateurs. À Damas, les autorités syriennes ont immédiatement réagi en parlant d'un crime terroriste dont le but est de semer le chaos en Syrie. Le successeur de Bachar el-Assad, Ahmed al-Sharaa, a fait de la réunion réunification de son pays, une priorité après 13 ans de guerre civile. Mais il se heurte à des groupes extrémistes incontrôlables. En juin dernier, une église orthodoxe grecque avait été prise pour cible à Damas. 25 personnes avaient trouvé la mort. L'attentat dans la mosquée de Homs a été revendiqué par la même faction, la Brigade des partisans de la Sunna, un groupe composé de djihadistes mécontents de la politique menée par l'actuel président syrien. Il a juré de poursuivre ses attaques contre ceux qu'il considère comme des infidèles.
Le récit de Valérie Crova de la rédaction internationale de Radio France. La météo de demain, samedi 27 décembre. La vigilance orange pluie inondation vient d'être levée en Haute-Corse. Cela dit, de fortes pluies sont attendues sur les Pyrénées-Orientales ainsi que sur le département de l'Aude. Sur la Nouvelle-Aquitaine et le reste de l'Occitanie, le temps est sec et nuageux. Les températures minimales vont de moins 5 degrés à 0 degré sur une bonne moitié nord du pays jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les maximales, 1 à 6 degrés sur la moitié nord, de 7 degrés à 12 degrés sur la moitié sud.